France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Affaires étrangères avec la même ambition, bien sûr, avec les meilleurs experts, analyser, décrypter les convulsions d'un monde et d'une époque dont le rythme ne cesse de s'accélérer. Voilà près de trois semaines déjà, Kaboul tombait aux mains des talibans et stupéfaits, nous assistions en direct, jour après jour, à la défaite de la première puissance du monde par ceux-là même qu'elle avait entrepris d'éradiquer 20 ans auparavant. Trois semaines au bout desquelles surgissent plusieurs paradoxes. Les États-Unis n'ont d'autre choix que de dialoguer avec les talibans pour obtenir le départ des Américains et de leurs associés afghans bloqués sur place. Les talibans n'ont d'autre choix que de collaborer avec Washington pour accéder à la reconnaissance et aux financements internationaux indispensables à la survie du pays. Tous les États concernés par le séisme afghan, qu'il s'agisse des voisins, l'Iran, le Pakistan, ou les grandes puissances régionales, la Russie, la Chine, partagent la même obsession, empêcher l'Afghanistan de devenir le sanctuaire de différentes mouvances islamistes financées par le commerce de l'opium, éviter au pays de sombrer plus encore dans leurs luttes intestines. Quelle est donc la place des talibans dans la galaxie djihadiste ? Faudrait-il souhaiter leur succès ? Quelques 10 000 militants étrangers seraient sur place, selon l'ONU. Daesh, l'organisation de l'État islamique, a ressurgi avec force, frappant l'aéroport d'une attaque suicide et de tirs de roquettes, contestant le nouvel ordre taliban. Quels sont donc leurs rapports ? Quel degré de porosité ? Quelle division au sein même des talibans ? Qu'en est-il de la rivalité entre Daesh et Al-Qaïda, l'organisation mère, dont le vieux dirigeant al-Zawahiri serait lui aussi rentré en Afghanistan ? Quels sont enfin aujourd'hui les théâtres d'opération des uns et des autres, la cartographie des groupes franchisés du Sahel jusqu'à l'Asie du Sud-Est, au moment où va s'ouvrir à Paris le procès des attentats de 2015, ranimant tant de blessures et de cauchemars? Que sait-on aujourd'hui du monde version djihad? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ce matin grâce à vous, Gilles Kepel. Vous êtes politologue, titulaire de la chaîne Moyen-Orient-Méditerranée à l'École normale supérieure. Niagale Bayagayoko, vous êtes vous aussi politologue, vous présidez un réseau qui s'appelle l'African Security Sector Network. Elie Tannenbaum, directeur du Centre des études de sécurité à l'Institut français des relations internationales. Et avec nous, Gilles Doronsoro, professeur de sciences politiques à la Sorbonne, directeur du programme européen qui étudie les dynamiques sociales des guerres civiles. Gilles Kepel, on a appris que le premier coup de fil de félicitations à l'un des dirigeants talibans était celui du patron du Hamas, Ismaël Haniyeh. Il y a eu des célébrations à Idlib, en Syrie, en Somalie, un peu partout, semble-t-il, dans cette galaxie des mouvements djihadistes. Quelle est donc, selon vous, la résonance du triomphe taliban ?
Alors, effectivement, les mouvements djihadistes sunnites essentiellement, hein, c'est-à-dire que vous avez aussi Monsieur Idriss Si Hamedi, le patron de Baraka City, qui, après que son association a été dissoute en France, a obtenu l'asile politique, entre guillemets, dans la Turquie de Monsieur Erdogan, qui s'est félicité de la victoire des talibans et autres. Alors, en fait, c'est quelque chose qui s'inscrit pour les islamistes sunnites dans une sorte d'espoir qui fait suite aux déconvenues qui ont été engendrées par la défaite et l'écrasement de Daesh. Et ça redonne de l'espoir, c'est-à-dire on va y arriver, la victoire de l'Occident n'est pas inéluctable, le mouvement de fond de l'islamisme va l'emporter et au fond il peut y avoir des liens entre des pays qui ont des relations avec l'Occident, qui même font partie de l'OTAN, comme la Turquie de M. Erdogan, qui sont très, tout à fait prêts à collaborer avec le régime des talibans, et qui, pour M. Erdogan, finalement, ce succès des talibans à Kaboul s'inscrit un peu dans la suite de la réislamisation de Sainte-Sophie l'année dernière, hein, c'est le même processus. le Qatar, qui est aussi tout à fait déterminé à jouer un rôle majeur pour la réouverture de l'aéroport de Kaboul, pour être l'intermédiaire entre les talibans et l'Occident. Il a déjà été, puisque c'est au Qatar, pour l'essentiel, que se sont tenues les négociations entre les États-Unis et les talibans qui prévoyaient le retrait américain, à part que les Américains n'ont pas compris que ça se produirait bien avant qu'ils le souhaitaient. Et donc tout ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les islamistes sunnites. Ça leur redonne le moral, si vous voulez, après la catastrophe de Daesh. Et en effet, vous l'avez rappelé, Idlib, dans la zone contrôlée par l'organisation Hayat Tahrir al-Sham, l'organisation de libération du Levant, du Sham, donc ils sont des islamistes liés à Al-Qaïda, cette mouvance-là, on a fait distribuer des bonbons à Idlib pour fêter cette victoire et autres. En revanche, pour la mouvance islamiste chiite, c'est plus compliqué. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Les Iraniens ont un lourd contentieux avec les talibans, qui sont des sunnites particulièrement rigoristes et qui considèrent que les chiites sont des hérétiques tout juste bons à être massacrés. Et ils ont tué pas mal d'Iraniens et de chiites d'Afghanistan, ça s'appelle les Hazara, lors du premier émirat taliban. Et si vous me permettez une petite anecdote personnelle, en 98, quand j'étais dans l'Afghanistan des talibans et je revenais en voiture de Kaboul au Pakistan par Jalalabad, je portais à l'époque la barbe et j'avais un pashmina sur le dos. On a été arrêté avec mon chauffeur à un contrôle et à ma tête, à mon look, ils m'ont pris pour un chiite. Et ils m'ont extirpé de la voiture, balancé dans le fossé. Et ensuite, ce n'est que quand le chauffeur leur a expliqué pas du tout, c'est un Français. Donc, on a pu remonter. On a quand même dû aller rechercher un visa à Kaboul. Donc, si vous voulez, être entre chiites et talibans, c'est pas la passion. Vous l'avez mentionné tout à l'heure aussi. À l'intérieur de la mouvance islamiste sunnite radicale, les talibans et ceux qui restent de Daesh ne s'entendent pas très bien. S'il s'est éprouvé, comme ça semble être le cas, que c'est une branche de Daesh qui a fait l'attentat à l'aéroport de Kaboul, c'est quelque chose qui ne fait pas les affaires des talibans qui ont effectivement besoin de financement. L'essentiel des réserves de la Banque centrale d'Afghanistan sont aux États-Unis. Et donc, il va falloir, en dépit d'une idéologie qui n'a pas changé, puisqu'ils ont été éduqués dans les mêmes madrasas pakistanaises que leurs parents, ils ont 20 ans, ceux qui ont pris Kaboul, il va falloir qu'ils aient une forme de pragmatisme, ne serait-ce que pour nourrir la population. Alors ça change le monde, on n'est plus à l'époque de l'Union soviétique, c'est la Chine aujourd'hui qui peut leur proposer de faire des deals contre les États-Unis. Mais enfin, tout ça est en train de, si vous voulez, introduire des variations dans le système. Les islamistes sunnites sont très contents, les chiites pas trop, parce que, y compris pour M. Raisi, pour faire un bras de fer avec les États-Unis, c'est pas terrible d'avoir derrière des gens qui peuvent les embêter. Et il faut bien se rappeler que, en gros, l'essentiel du prolétariat immigré en Iran, qui fait les masses, les boulots dont personne ne veut, ce sont des Afghans, dans lesquels, effectivement, on peut infiltrer des gens qui feront ce qu'ont fait un certain nombre de gens qui sont infiltrés parmi les flux migratoires en Europe.
Avant de poursuivre, Gilles Kepel, j'aimerais vous demander, Gilles de Ronsoreau, bonjour, vous avez fait énormément d'études de terrain en Afghanistan et vous continuez de suivre évidemment de très près la situation au jour le jour. On vient d'apprendre ce matin, selon l'agence France Presse, qu'il n'y aura pas de gouvernement annoncé aujourd'hui. Il y a des combats dans le Panjshir, qui est donc cette poche aux mains des dirigeants tadjiks, dont le fils du commandant Massoud. Expliquez-nous, Gilles de Ronsoreau, que sont les talibans? Je crois que le terme veut dire, étymologiquement, séminariste coranique. S'agit-il donc d'un mouvement islamiste à l'idéologie conquérante, anti-occidentale? Ou s'agit-il désormais d'un mouvement qu'il faut considérer, puisqu'ils ont pris le contrôle du pays tout entier? C'est la première fois qu'un mouvement de ce genre, toujours considéré comme terroriste d'ailleurs par les États-Unis, prend le contrôle du pays. Donc, qui sont-ils?
Alors, de manière assez simple, ce qui caractérise d'abord le mouvement taliban, c'est la présence d'oulémas à la tête du mouvement. Ça, c'est quelque chose qui, à ce niveau-là, n'avait jamais été vu dans l'histoire politique afghane. Il y avait des...
Donc les oulémas, c'est-à-dire les sachants.
Voilà, c'est ça. Ceux qui ont été formés, qui ont eu les jazas, qui ont été formés dans des madrassas, c'est-à-dire c'est les professionnels du religieux, pour faire simple. Donc ça, c'est la première chose. Et ça explique la structure très, très hiérarchisée du mouvement. C'est un mouvement où il y a, par rapport à ce qui se passe en général en Afghanistan, assez peu de dérapages. La deuxième dimension, c'est que c'est un mouvement qui n'est pas tribal, qui est multiethnique, qui est devenu progressivement multiethnique, et qui est très nationaliste. Il y a une fusion islam-nationalisme qui est assez classique. La troisième dimension qui me paraît importante, c'est que c'est un mouvement étatiste, c'est-à-dire que les talibans ont émergé en 1994 dans le sud de l'Afghanistan, dans la région de Kandahar, d'abord comme une réaction au désordre des groupes de Moudjahidine qui avaient combattu les soviétiques, qui s'étaient un peu accaparés, surtout la ville de Kandahar, il y avait des divisions, des combats, la population était évidemment catastrophée de cette atmosphère extrêmement anarchique. Et les talibans sont d'abord une réaction à ce désordre. Ensuite, progressivement, avec l'appui du Pakistan, ils ont pris quasiment l'ensemble de l'Afghanistan. Et toujours, leur perspective, ça a été de reconstruire un État, ce qu'ils avaient réussi à faire d'ailleurs de manière assez surprenante en 2001, juste avant l'attaque américaine.
Et là, c'est une nouvelle génération.
Et là, c'est en partie une nouvelle génération, parce que les cadres, la direction, c'est toujours les anciens. Voilà, Baradar, par exemple, c'est un ancien, etc. Donc, ça reste
Baradar, dont on dit qu'il serait en quelque sorte le premier ministre, mais avec un réseau extrêmement puissant, celui de la famille Haqqani, qui, eux, joueraient un rôle... Alors, ils seraient en charge de la sécurité à Kaboul, mais ils joueraient un rôle plus ambigu.
Alors, d'abord, mettre la famille Haqqani en charge de la sécurité, c'est pas mal, puisque c'est eux qui organisaient une grande partie des attentats, en tout cas ceux qui étaient des attentats qui étaient attribuables aux talibans, c'est eux qui organisaient les attentats à Kaboul, donc c'est pas idiot.
Ah oui, donc on met en quelque sorte les auteurs des attentats en charge de la sécurité.
C'est le meilleur douanier, oui, c'est voilà. Bon. Et dernier élément peut-être, et là je suis un peu en contradiction avec ce que disait Gilles Kepel, c'est pas un mouvement du tout qui déclare les chiites apostats. Là, il y a une grosse confusion. Je pense que c'est important pour les auditeurs de comprendre que ça n'est pas le cas.
Oui, enfin, il y a eu quand même beaucoup d'assassinats de Azeri chiites la part des talibans, d'après ce qu'on peut lire ici ou là.
Oui, mais alors, si vous considérez que...
Dans le passé.
Alors, dans le passé, mais même il y en a encore aujourd'hui, mais si, effectivement, les talibans avaient déclaré les Hazaras, évidemment, apostats ou quoi que ce soit, ils n'organiseraient pas la fête de l'Ashura. Et c'est eux qui ont organisé et protégé la fête de la Shoah. Et ce qu'on sait, parce que moi j'ai voyagé en fait, j'ai traversé le Hazarajat en 2000, c'était clairement un deal, un accord. Les talibans n'étaient pas directement dans le Hazarajat, donc la région centrale peuplée de chiites, mais ils avaient délégué le pouvoir à des responsables Hazara. Donc oui, il y a eu des massacres ici ou là, il n'y a pas, et c'est la grande différence avec Daesh, il n'y a pas du tout de déclaration de takfir, voilà.
Et vis-à-vis des Occidentaux, quelle est l'idéologie talibane? Parce que là, nous sommes directement concernés.
Un autre point qui va faire la transition, c'est qu'au contraire, les talibans ont négocié avec les Iraniens. Ils étaient à Téhéran il n'y a pas très longtemps. Et la transition du pouvoir s'est passée de manière relativement souple avec les Hazaras, notamment parce qu'il y avait protection iranienne. Et ça nous amène au point qui nous intéresse, c'est que l'objectif des talibans, c'est d'être dans la communauté internationale. C'est ça qui les intéresse. Donc, avec les voisins, c'est très largement fait. Maintenant, ce qui reste, c'est les États-Unis essentiellement. Et là, on a un deal ou une série de deals qui sont en train de se mettre en place. D'où la relative modération des talibans, hein, qui grosso modo se situerait quelque part entre l'Arabie saoudite, l'Iran, donc un régime autoritaire, fondamentaliste, mais respectant à peu près les normes internationales, notamment le côté sacro-saint des frontières. Donc c'est un mouvement dont il faut rappeler d'abord qu'il n'a pas été anti-occidental initialement. Hein. Les occidentaux n'étaient pas, moi je les ai vus en 94-95, l'Occident n'était pas sur la carte mentale des talibans.
Alors, et aujourd'hui
c'est, aujourd'hui, à fond, ça fait 10 ans qu'on négocie avec les talibans. Hein. Moi, je les avais vus lors des négociations de Chantilly. Évidemment, ils se sont beaucoup transformés. Hein. Ils parlent anglais, ils ont une vraie stratégie diplomatique assez complexe. Évidemment, ils vont jouer avec le Qatar, avec le Pakistan, avec la Turquie, avec la Russie, les Chinois, etc. Donc, c'est vraiment devenu un mouvement qui a une perception de l'international, ce qui n'était pas du tout le cas au départ, où c'était vraiment quand même un peu des gens de la campagne, quoi, pour être clair.
Elie Tenenbaum, on a vu l'irruption, la résurrection, pour beaucoup d'entre nous, de Daesh, ou plus précisément, d'une branche de Daesh, d'une branche afghane de Daesh qui s'intitule l'État islamique du Khorasan, qui est donc cette province qui regrouperait dans l'imaginaire de Daesh à la fois le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan. De qui s'agit-il et quels sont leurs rapports avec les talibans?
Oui, le Khorasan, c'est effectivement une toponymie arabe et persane pour désigner la zone à l'est, à partir de l'est de l'Iran, et d'ailleurs qui n'est pas du tout spécifique à Daesh, qui est présente dans toute la littérature islamique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir du moment où, en 2014, vous avez eu la proclamation du califat par ce qui était l'État islamique d'Irak et au Levant, et qui s'est proclamé donc État islamique universel, vous avez eu un effet de répercussion à travers le monde entier, à travers la galaxie des djihadistes, et que ce soit au Sahel, en Somalie, au Yémen ou en Afghanistan, vous avez eu une forme de polarisation. Alors, il se trouve que donc Daesh a créé des provinces, des wilayats un petit peu partout à travers le monde, avec les militants, les soutiens qui pouvaient être les siens. La province du Khorasan était d'ailleurs une des premières à avoir été créée à partir de combattants afghans et pakistanais qui s'étaient rendus en zone syro-irakienne dans la période 2013-2014. Et à leur retour, fin 2014, se sont un petit peu coalisés avec différents sous-groupes pour constituer une province de Daesh, aux ordres de Daesh. Ils se sont immédiatement confrontés aux talibans en tant que groupe rival, talibans qui, même si aujourd'hui ils prennent leur distance avec Al-Qaïda, demeuraient quand même dans l'obédience, on va dire, caïdiste du mouvement djihadiste. Et du fait de cette polarisation, il y a eu une opposition, mais aussi très 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 concrètement du fait qu'ils visaient la même clientèle, qu'ils visaient finalement un positionnement insurrectionnel similaire. Les Daeshis du Khorasan, les combattants de Daesh, n'ont jamais réussi à s'implanter durablement. Il y a eu plusieurs tentatives assez sérieuses.
Mais ce sont eux qui ont commis les attentats les plus atroces, notamment l'an dernier, contre des maternités, oui, des écoles de filles.
Tout à fait. Alors,
et on leur doit évidemment l'attentat de l'aéroport de Kaboul. 170 Afghans morts, 13 militaires américains, 2 britanniques.
Absolument. Ils ont adopté comme...
attentat suicide.
Absolument, comme les attentats suicides, c'est des choses qu'on a vu arriver d'ailleurs avec le réseau Haqqani dont on parlait à l'instant, avant l'entrée de Daesh en scène. Mais effectivement, Daesh comme Daesh au Khorasan comme sa filière centrale, finalement, et c'est singularisé par un sectarisme, par une forme de millénarisme et par une ultra-violence et une mise en scène de l'ultra-violence dans leurs attaques, avec une dimension extrêmement virulente dans son antichisme, non seulement en Afghanistan mais également au Pakistan. Faut pas oublier que la moitié des attentats de Daesh au Khorasan ont eu lieu en fait au Pakistan. Et donc, en cherchant à jouer à fond le clivage sectaire interne à l'islam et interne aux sociétés, sachant que évidemment en Afghanistan comme au Pakistan, il y a un lien entre l'identité confessionnelle chiite ou sunnite et puis certains clivages qui peuvent être sociaux ou ethniques.
Et là, on voit que ce Daesh afghan pose un défi à l'ordre taliban, traitant d'ailleurs les talibans maintenant de laquais.
Absolument.
Des États-Unis.
Ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve dans la propagande de Daesh depuis longtemps, de traiter tous les mouvances caïdistes comme des agents du sionisme, de l'américano-sionisme. Ça nous paraît très très bizarre à nous de pouvoir lire que Al-Qaïda est un suppôt américano-sioniste, mais c'est évidemment dans l'imaginaire et dans la propagande qui circule.
Mais alors justement, Élie, c'est le moment sûrement parce que avouons-le, c'est quand même d'une complexité absolument fatale. Donc, Al-Qaïda, c'est en quelque sorte la matrice. Al-Qaïda, c'est Ben Laden.
Al-Qaïda, c'est une structure donc fondée par des Arabes qui, initialement, ont participé aux côtés d'un certain nombre d'Afghans au djihad anti-soviétique, aux côtés des Moudjahidines.
Encouragés par les Américains et les Occidentaux.
Oui, même si la tendance Al-Qaïda, en fait, était assez largement autonome de l'opération américano-pakistanaise de soutien aux Moudjahidines afghans, mais effectivement, ils ont été côte à côte à un moment, et qui, à partir du moment où ils se sont retournés contre à la fois les Américains, mais aussi un certain nombre de régimes, dont l'Arabie Saoudite dès les années 90, ont trouvé refuge auprès de l'Afghanistan des talibans dans les années 90, avec une forme d'alliance qui s'est nouée, avec Oussama Ben Laden, leader d'Al-Qaïda, qui avait prêté allégeance au Mollah Omar, qu'il avait érigé
qui était
en émir,
le leader taliban incontesté.
Et que Ben Laden considérait, reconnaissait comme le commandeur des croyants. Cette baïa, cette allégeance a été renouvelée par le successeur de Ben Laden, Zawahiri, à tous les leaders des talibans par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les dernières années, le Mollah Akhundzada, qui est l'actuel leader des talibans, n'a pas reconnu publiquement ce serment d'allégeance d'Al-Qaïda, et donc finalement n'a pas reconnu cette alliance. Et donc on sent aussi que les talibans cherchent, au moins pour des raisons de respectabilité internationale, à se distancier un petit peu de leur alliance historique avec Al-Qaïda. Et en même temps, il y a des liens anciens, il y a des alliances matrimoniales, il y a un certain nombre de choses qui fait que ils peuvent pas les rejeter complètement au niveau tactique, en tout cas.
Mais c'est néanmoins la condition, même s'il n'y a aucun mécanisme de contrôle qui était prévu, posé par l'administration Trump au moment de la signature des accords avec les talibans en février 2020. Et donc là, l'émissaire américain a dit aux talibans, on vous reconnaît, etc. Mais la condition, c'est que vous ne laissiez pas Al-Qaïda s'épanouir comme auparavant.
Ça faisait partie des conditions de l'accord de Doha, il y en avait d'autres.
Mais encore une fois, sans aucun contrôle. Donc qu'est-ce qu'il faut attendre des relations taliban-Al-Qaïda? Daesh, parce qu'au fond, c'est là où on est un peu perdu, il faut bien le dire, cette bipolarisation Al-Qaïda-Daesh.
L'opposition entre Al-Qaïda et Daesh est claire et elle va pas revenir, on va pas revenir dessus, et entre les talibans et l'État islamique en Khorasan, l'opposition est claire et ils sont à couteau tiré, ils sont en guerre, on peut le dire. Le lien entre Al-Qaïda et les talibans, c'est ce qui va se jouer dans les années, dans les semaines, mois, années à venir. On va regarder ça de très près. Et vous disiez à l'instant qu'il n'y avait toujours pas de gouvernement taliban. Il faut comprendre qu'au sein même des talibans, il y a toujours eu des courants, des gens qui s'opposaient, qui étaient plus ou moins pour cette alliance avec Al-Qaïda. On a différentes figures qui émergent. On parlait de Baradar, qui est un ancien, qui a toujours été plutôt dans les gens qui étaient assez sceptiques et prudents sur cette alliance avec Al-Qaïda. On a le fils du Mollah Omar, Yacoub Omar, qui lui semble un petit peu plus dur. Et puis on a des gens comme Haqqani qui sont à la fois très pragmatiques et en même temps ont des liens, des connexions internationales très fortes. Donc en fonction de quel type de qui va l'emporter au sein aussi de ce ce futur gouvernement taliban, on va voir une posture qui va évoluer. Mais moi, je pense que globalement, ils vont éviter de reproduire les erreurs des années 90 qui leur ont quand même attiré 20 ans de malheur, de guerre et de guérilla et beaucoup, beaucoup de souffrance pour eux. Ils vont éviter d'avoir ce type de provocation. Maintenant, des liens demeureront vraisemblablement, notamment avec la filiale Al-Qaïda dans le sous-continent indien, qui est la plus intégrée opérationnellement avec les talibans, et la question, voilà, ça sera la nature de ces liens, la densité et les soucis que ça peut provoquer à minima dans la région, voire dans le monde plus généralement.
Niagale Bagayoko, avec vous, et qui, au risque de se perdre encore une fois dans les sigles différents, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est la façon dont Al-Qaïda, au cours des 20 dernières années, a développé un certain nombre de franchises, pourrait-on dire, comme une marque internationale, et notamment en Afrique subsaharienne, et c'est bien à ces branches-là d'Al-Qaïda auxquelles la France en particulier a affaire au Mali et au sein de l'opération Barkhane.
Alors, en effet, si l'on aborde le méandre des mouvements djihadistes présents au Sahel, il faut un petit peu revenir en arrière sur leur histoire. L'apparition de ces mouvements dans le nord du Mali est directement liée à la situation qui prévalait en Algérie, hein, au moment de la guerre civile algérienne, où l'armée, enfin les autorités algériennes ont réussi à repousser dans le nord du Mali des groupes terroristes, notamment le GIA, hein, qui a été notamment responsable d'attentats en France, y compris en 1995. Le GIA, donc le groupe islamique armé, qui s'est ensuite transformé en GSPC, le groupement salafiste pour la prédication et le combat.
Et avec une génération d'Algériens en particulier qui avait été formés. Absolument. En Afghanistan et au Pakistan.
Aussi, exactement. Mais tout ça a rapidement muté et c'est là que, sur la base de ces groupes, a émergé une filiale d'Al-Qaïda, pardon, qui s'appelle Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui elle-même s'est ensuite scindée en différents mouvements, dont le mouvement Al-Mourabitoun, et puis ensuite, à la faveur de la guerre qui a été lancée en lien avec des groupes rebelles Touareg, absolument pas djihadistes, en encore d'autres mouvements comme le Moujao ou le groupe en Sardine. Et aujourd'hui, le groupe le plus politiquement actif au Sahel et effectivement le GSIM, qui est une coalition de différents mouvements qui inclut ACMI, tout en faisant allégeance à Al-Qaïda.
Et qu'est-ce que l'on sait des liens réels entre Al-Qaïda, disons pakistano-afghan, pour essayer de situer géographiquement à ce stade, et ces différents mouvements regroupés, comme vous venez de nous l'expliquer, au niveau du Sahel.
Là, on touche à la question fondamentale, et qui est valable à mon avis sur tous les théâtres qu'on vient d'aborder, du lien entre le djihad global et le djihad local. Il est indéniable que l'inspiration idéologique, voire l'importation de techniques opérationnelles, se réfère à ces mouvements globaux, internationaux. Mais ce qui se produit de manière frappante au Sahel, c'est la façon dont les mouvements qui y sont affiliés, notamment ce GSIM dont je parlais, dirigé par Yada Gali, un Touareg, s'ancrent dans les réalités, les communautés, les légitimités locales pour rendre leur combat beaucoup plus légitime, y compris aux yeux des populations. l'immigration. Ce qui est essentiel également de mentionner, c'est que ces mouvements qui venaient du nord, de l'Algérie, se sont étendus vers le sud, y compris vers le centre du Mali, où l'un des mouvements qui est également affilié à ce GSIM et donc à Al-Qaïda est la Katiba du Massina, dirigée par le Peul Amadou Koufa. Et ces mouvements descendent encore plus, se sont étendus vers le Burkina Faso et vers vers le Niger.
Si je peux et aussi vers l'ouest, vers le golfe de Guinée.
Et commence, alors de manière encore, heureusement, mais en effet pour combien de temps, beaucoup moins dramatique, surtout vers la Côte d'Ivoire, Ghana, etc. Mais ce que je voudrais simplement préciser, c'est que il n'y a pas simplement des mouvements affiliés à Al-Qaïda au Sahel. Il y a également les mouvements affiliés à l'État islamique lui-même.
À Daesh.
Et à Daesh, qui sont eux-mêmes en compétition depuis, de manière assez récente, hein, depuis début 2020, et assez violente avec les groupes affiliés à Al-Qaïda. Et ces groupes affiliés à Daesh, ils sont très intéressants parce que il y a là aussi une province Afrique de l'Ouest qui a été créée avec deux branches. On parle beaucoup plus ici en France de la branche qu'on appelle l'État islamique au Grand Sahara qui agit dans la région des trois frontières, Burkina, Mali, Niger. Mais il y a aussi l'autre branche du lac Tchad qui est composée d'anciens combattants affiliés au groupe Boko Haram qui n'existe plus aujourd'hui en tant que tel. Et donc on voit là toute la complexité et les techniques ou les approches, y compris en termes d'atrocités commises par rapport aux civils, ne sont absolument pas les mêmes entre ces différents groupes.
Gilles Kepel, on comprend bien dans cette fresque et cette extraordinaire prolifération de mouvements qui sont certes concurrents entre eux, mais on le comprend bien, et c'est toute la difficulté de l'opération française au Sahel en particulier, on le comprend bien, ce sont des mouvements qui ont des ancrages de plus en plus profonds dans les populations, dans des états faillis, avec des problèmes aussi accélérés par le changement climatique. Vis-à-vis de cette cartographie, quel est aujourd'hui le rôle des grandes puissances, si j'ose dire, traditionnelles, des acteurs traditionnels de la scène internationale, en commençant par la Russie? On voit bien à quel point, et les dernières déclarations de Vladimir Poutine encourageant les talibans, je le cite, à se comporter de manière civilisée, on voit bien que le Kremlin, d'abord, est très préoccupé par les risques de déstabilisation croissante au sud du Caucase.
Oui, il faut bien se rappeler quand même que l'effondrement de l'Union soviétique avec la chute du mur de Berlin en novembre 1989 est directement la conséquence de la défaite de l'armée rouge qui a dû évacuer Kaboul le 15 février de cette même année. Donc pour l'Empire soviétique, État successeur de la Russie, la question afghane est un enjeu de sécurité même intérieure. Et pour s'en revenir au monde ancien, déjà quand les tsars et l'Empire britannique se battaient, les uns souhaitant descendre vers les mers chaudes et les autres contenir la Russie, c'était l'Afghanistan qui était la pomme de discorde principale dans ce que Kipling appelait le grand jeu, le great game. Donc le basculement de l'Afghanistan dans un sens ou dans un autre, c'est quelque chose qui s'inscrit dans les stratégies des Pakistanais, on en a peu parlé, mais il est difficilement imaginable que la victoire des talibans ait pu se produire sans ni l'obstacle pakistanais. Ça pose, contrairement à ce que j'y reviens dans un instant, un très gros problème à l'Iran, qui sont quand même non seulement les massacres de Hazara, mais deux diplomates iraniens au consulat de Mazar-e-Sharif.
L'Iran, pardon, Gilles Kepel, je vous interromps, l'Iran qui a plus de 900 kilomètres de frontière avec l'Afghanistan et qui abrite déjà au moins 3 millions d'Afghans avec ces dernières semaines près de 800 000 réfugiés qui tentent de passer les frontières.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que cette vision que les talibans sont cool, quand même, il faut peut-être faire ça avec des pincettes. S'ils étaient si cool que ça, il n'y aurait pas des gens qui veulent les fuir en masse, sauf à considérer que...
Mais enfin, je crois que personne ne considère que les talibans sont cool.
Certains le font. Et donc, par ailleurs, du côté de la Russie, il y a bien sûr une très grosse inquiétude. Alors, la situation a quand même changé par rapport à l'époque précédente, puisque nous avions, avant 89, un antagonisme soviéto-américain. Aujourd'hui, l'Union soviétique n'existe plus. Moscou a des intérêts d'État, mais n'a pas d'intérêt idéologique particulier.
Non, mais il a des intérêts stratégiques, notamment dans tous les stands, si j'ose dire, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Il y a eu d'ailleurs des manœuvres antiterroristes ces dernières semaines qui ont été...
Oui, mais ce ne sont pas, si vous voulez, ça ne se fait pas au nom de la défense de l'idéologie communiste. Ça se fait au nom de l'intérêt étatique, de la réelle politique, si je puis dire, de la Russie, de Poutine. Et je pense que ce qui est quand même l'élément le plus important aujourd'hui, parce que c'était une puissance qui, à l'époque, n'avait pas un pareil déploiement, c'est la Chine. La Chine a reçu en grande pompe, il y a maintenant un mois à peu près, ou un peu moins, une délégation des dirigeants talibans, et la Chine est dans une stratégie de déploiement, ou faudrait-il dire de redéploiement, des anciennes routes de la soie qui passaient... Par l'Asie centrale et occidentale. Et on a vu par exemple que quand l'Iran souffrait des sanctions américaines, les Chinois ont voulu négocier avec l'Iran des sortes de traités inégaux pour profiter de leur situation de faiblesse et développer leur nouvelle route de la soie. On peut imaginer effectivement qu'avec l'Afghanistan des talibans, il va y avoir certainement... Je ne sais pas ce qui s'est dit exactement à Pékin, mais toute une stratégie chinoise qui voit dans un soutien X ou Y dont j'ignore le niveau aux talibans, une manière de peser sur les Américains, également de peser sur l'Iran et autres. Donc, si vous voulez,
et d'exploiter les matières premières dont le sous-sol afghan est évidemment très riche. Et d'ailleurs, Pékin vient d'annoncer une augmentation de son aide à Kaboul.
Oui, ça c'est assez probable. Alors, pour revenir brièvement sur la situation, ce qui a été dit sur les talibans, c'est un mouvement essentiellement nationaliste, c'est-à-dire que ce sont imprégnés d'idéologie islamiste. Leur objectif principal, ça n'est pas d'aller mettre des bombes à Paris. Ils ont donné l'hospitalité à Ben Laden autrefois, parce que dans la situation qui prévalait, c'était une opportunité pour eux, outre la sympathie idéologique qu'ils pouvaient avoir pour lui, de valoriser leur propre rôle. Dans la situation présente, avec la capacité de négociation couvre les offres chinoises dont vous venez de parler, l'intérêt russe, et aussi pour se prévaloir de l'hostilité avec l'Iran, moi, je n'imagine pas qu'ils aient une politique d'accorder l'asile ou l'hospitalité aux islamistes djihadistes terroristes internationaux de la planète.
Donc un rôle stabilisateur. Non, Gilles Daron-Soreau, je retourne vers vous pour que vous nous expliquiez davantage le rôle très singulier et parfaitement ambigu du Pakistan. Le Pakistan, parrain des talibans, parrain d'Al-Qaïda, Al-Qaïda créature jusqu'à un certain point, ou en tout cas créature encouragée par les tout-puissants services de renseignement pakistanais. Quel est aujourd'hui le est-ce qu'il y a pour le Pakistan de d'Imran Khan qui s'est écrié bravo les talibans, vous vous êtes libéré des liens du colonisateur. Quel est le défi que l'Afghanistan pose aujourd'hui au Pakistan?
Bon, d'abord, il faut remettre les choses en perspective. Hein. La politique pakistanaise est la même depuis les années 70. Hein. C'est de faire basculer l'Afghanistan dans sa sphère d'influence pour contrer l'Inde et ouvrir des voies de communication terrestre avec l'Asie centrale. Et ça n'a jamais changé en 40 ans. Hein. Je crois que ça, c'est véritablement la ligne pakistanaise absolue. Hein. Maintenant, une deuxième chose, tout aussi claire, c'est que la victoire des talibans, c'est d'abord la fin de la guerre civile. Pourquoi les Iraniens, depuis des années, collaborent concrètement avec les talibans sur la frontière? Parce que, simplement, les talibans sont là et qu'il faut gérer la frontière. Et comme tous les pays de la région, Russie compris, tous ces pays voient la victoire des talibans comme une façon de stabiliser, de mettre fin à la guerre civile, de stabiliser leurs frontières, très clairement. Pour ce qui est de la politique pakistanaise ces 20 dernières années, les Pakistanais ont gardé leurs objectifs tels que je décrivais tout à l'heure et ils ont réussi de manière parfaitement extraordinaire, enfin un très beau coup, c'est à maintenir une alliance avec les États-Unis tout en soutenant les talibans. Donc voilà, ça c'est propre à proprement parler, un exploit diplomatique, et ça a permis aux talibans de survivre. Hein. Il y a deux moments historiques où les talibans auraient pu disparaître, où c'est d'abord en 95-16, parce qu'ils ont passé un passage à vide, mais les officiers de la SA étaient sur le terrain, les officiers des services secrets pakistanais étaient sur le terrain et ont permis aux talibans de s'imposer. Et il y a un deuxième moment, évidemment, c'est après 2001, après le 11 septembre, les talibans étaient prêts à se rendre, hein, moyennant une amnistie, à rentrer en Afghanistan quand ils étaient au Pakistan. Les Américains ont refusé, et donc du coup, ça a permis à l'État pakistanais de refaire un mouvement taliban important. Maintenant, on va se retrouver avec une situation beaucoup plus complexe, parce que les talibans ont un contentieux, comme tous les Afghans, un contentieux historique avec le Pakistan, qui est la frontière. Hein. Les gouvernements afghans successifs n'ont pas reconnu la frontière actuelle.
Oui, une frontière qui divise en fait l'ethnie pachtoune.
Voilà, c'est
qui
ça.
Est de part et d'autre.
Ouais. Les Britanniques.
Une frontière due au général Durand, qui, contrairement à son nom, était britannique.
Voilà, c'est ça, absolument, l'erreur classique. Non, les Français, pour une fois, n'ont rien à voir avec ça. Et donc, ce conflit reste. Et de plus, quand on voit la biographie de quelqu'un comme Baradar, mis en prison et torturé par les Pakistanais, il est peu probable qu'il ait des sentiments très affectueux par rapport aux généraux pakistanais. Et je pense que la stratégie d'ouverture actuelle de l'Afghanistan correspond à la fois à des intérêts évidents, hein, les caisses sont vides, ils ont besoin de reconnaissance internationale, ils veulent être délistés des mouvements terroristes, et aussi à une volonté de prendre quelques distances, si possible, avec le Pakistan. Hein, parce que les talibans, c'est un mouvement nationaliste, ils voient bien que le poids du Pakistan est pas très fin quand on veut effectivement gérer, notamment d'un point de vue économique, l'Afghanistan comme une entité autonome. Donc je pense que là, il y a la source de tension. La deuxième tension potentielle, c'est effectivement la situation sur la frontière, mais plus du côté pakistanais en fait, où l'État islamique au Khorasan maintient des petites bases. Si les talibans sont en train de nettoyer leur côté de la frontière, il restera le côté pakistanais. Et là, tout dépend de l'attitude de l'armée pakistanaise, qui avait fait des opérations extrêmement importantes dans les années 2010 sur les zones tribales pour justement éliminer une partie de ces mouvements. Le contexte politique au Pakistan rend difficile probablement ce type d'opération. Donc là, on va avoir une zone d'instabilité, mais pas du côté afghan, qui sera du côté pakistanais.
Eli Tannenbaum, pendant 20 ans, depuis le 11 septembre 2001, on a vu à quel point les États-Unis et derrière eux les Occidentaux, la coalition, l'article 5 de l'OTAN, c'était la première fois dans l'histoire de l'Alliance Atlantique que cet article a été déclenché, On a vu que toute la stratégie occidentale était destinée à lutter contre le terrorisme international et à développer des outils pour ce faire, évidemment sur le plan militaire, mais aussi sur le plan du renseignement. Comment c'est les outils du contre-terrorisme dont on soupçonne l'efficacité, notamment en France, et encore une fois au moment où va s'ouvrir ce procès inimaginable des attentats de 2015. Comment est-ce que les outils du contre-terrorisme peuvent s'adapter aujourd'hui à cette transformation, mais d'une certaine manière, cette cristallisation de la galaxie djihadiste?
On est clairement aujourd'hui dans une crise hein, du contre-terrorisme, à un moment charnière, à la fin d'un cycle, en tout cas c'est ce qu'on essaye de dire dans notre dernier ouvrage avec mon co-auteur, parce que finalement le terrorisme existait avant le 11 septembre, évidemment, il y avait tout un tas de services spécialisés qui cherchaient à lutter, mais après les attentats monstres d'il y a 20 ans, vous avez eu une administration américaine et forcément tous les alliés et bien au-delà de ça, une bonne partie du monde qui s'est engagé dans la guerre globale contre le terrorisme avec une utilisation massive de moyens militaires, avec une débridation assez large des capacités de renseignement. Et puis au-delà de ça, tout le monde était à l'heure la lutte contre le terrorisme, la guerre contre le terrorisme était devenue l'enjeu majeur finalement de la politique étrangère et de sécurité nationale de pas mal de pays, et c'est devenu le cas progressivement en France, plus lentement, mais dans la dernière décennie, on peut très clairement dire que c'était devenu le cas. Ça s'est traduit effectivement par une certaine efficacité à travers des opérations ciblées à mettre à mal des organisations comme Al-Qaïda, qui se sont adaptées en se transformant, en se décentralisant et finalement en diluant une bonne partie de leur structure, aussi bien dans les pays occidentaux que sur les fronts actifs du djihad. Et puis du côté occidental, donc on a eu ces opérations, mais on a eu aussi le besoin de reconstruire entièrement des États qui avaient été renversés à tort ou à raison pour des liens suspectés avec le djihadisme international, ou qu'il fallait soutenir des États en détresse confrontés à ces activités. Et c'est ça qui nous a emmenés sur ces 20 années de guerre qui sont, elles, un échec total en Afghanistan, avec l'incapacité complète, c'est le sujet aussi de l'ouvrage de Gilles de Ronsoreau, à reconstruire un État afghan. Du côté irakien, ça s'est à peine mieux passé. En fait, ça a fonctionné en donnant les clés du pays à un certain nombre de soutiens de l'Iran. Et on voit bien qu'au Sahel, on a beaucoup de mal à construire des états fonctionnels et des armées fonctionnelles capables de soutenir le choc. Aujourd'hui,
oui,
après 20
c'est
ans...
c'est un euphémisme, mais aujourd'hui, on voit que les États-Unis, par définition, perdent leurs outils de renseignement, dont on peut d'ailleurs douter de l'efficacité quand on voit la rapidité avec laquelle l'armée afghane en particulier s'est écroulée ou s'est ralliée plus exactement aux talibans. Donc comment est-ce que les outils du contre-terrorisme peuvent s'adapter à cette nouvelle cartographie que tous ensemble, nous sommes efforcés de préciser.
Ce qu'on voit émerger, c'est une forme d'approche sans doute plus modeste, et ça sera pas un mal vis-à-vis de cette lutte contre le terrorisme. On sait d'ores et déjà qu'on n'arrive pas et qu'il est futile d'essayer de reconstruire des États entièrement depuis l'extérieur pour les former, les formater à la lutte contre le terrorisme. Donc il y aura sans doute plus de modestie, une concentration, et c'était l'idée de Joe Biden à l'époque même où il était vice-président des États-Unis, de se concentrer avant tout sur de l'action contre-terroriste ciblée. Donc vous allez continuer à voir sans doute du renseignement, des frappes aériennes, on en a eu après.
Et les drones.
Par drone ou pas par drone d'ailleurs, mais enfin les drones assurent surtout une permanence de renseignement qui permettent de frapper où et quand les acteurs le souhaitent, mais aussi des raids de forces spéciales, quelque chose qui va sans doute se limiter à éliminer les acteurs les plus virulents, les plus directement identifiés comme menaçant des intérêts des intérêts occidentaux, américains, si on parle de du contre-terrorisme américain, mais la France suit assez largement cette direction là et c'est ce qu'on va voir au Sahel. Et puis ensuite, en deuxième rideau, vous allez avoir des politiques de coopération avec qui peut le faire et qui accepte de le faire. Et là, c'est tout l'enjeu, voilà, du partenariat militaire qui essaye de se nouer, qui au Sahel, qui en Irak ou dans d'autres régions du monde, mais en sachant que c'en est fini de l'époque où vous allez entièrement reconstruire un État ou un appareil de sécurité locale, parce que finalement, voilà, il n'y a plus l'aspiration à le faire, il n'y a plus les moyens à le faire, et puis il y a d'autres enjeux qui émergent. L'une des raisons pour lesquelles on a un retrait américain aussi brutal d'Afghanistan aujourd'hui, c'est bien parce que l'Amérique veut se concentrer sur d'autres enjeux, et dans le champ de la défense, voilà, ce qu'elle appelle la compétition stratégique entre grandes puissances, la Chine, et que Joe Biden considère que ces guerres sans fin, créer une diversion très dommageable pour l'appareil de sécurité et défense américain face à ce que lui considère comme les grands enjeux du 21e siècle. Et on a un petit peu ce débat-là en France aussi. On dit finalement, il y a d'autres choses auxquelles il faut se préparer, et dépenser 1 milliard d'euros chaque année dans l'opération Barkhane, c'est pas forcément les mêmes les bonnes dépenses. On peut discuter de la validité de ces arguments, mais en tout cas, c'est l'état de la réflexion stratégique aujourd'hui en Occident sur un contre-terrorisme qui est en train, petit à petit, de reculer, aussi paradoxal que ça puisse paraître avec les semaines qu'on vient de suivre, mais reculer dans la liste des priorités en matière de sécurité et de défense.
Gilles Kepel, on arrive pratiquement à la conclusion provisoire, en tout cas, de cette discussion. Est-ce que paradoxalement, le triomphe des talibans, c'est encore une fois la première fois qu'un mouvement de cette nature prend le contrôle d'un pays entier, et personne ne le conteste désormais. Et la seule question pour les États traditionnels est de savoir à quel moment ils vont effectivement reconnaître l'État taliban. Est-ce que cela veut dire, Gilles Kepel, qu'il s'agit d'une recomposition du monde tel qu'on le connaît, et en particulier de cette région d'Asie centrale dont vous rappeliez tout à l'heure dans l'histoire l'importance dans la lutte précisément entre les grandes puissances, ou est-ce qu'il s'agit paradoxalement d'une stabilisation?
Pardon, je vous avais raté, je vous avais perdu. Oui, il me semble que c'est un élément important. Il y a une pièce qui a changé de place dans l'échiquier de la région, indéniablement. Et comme vient de le dire M. Tenenbaum, les États-Unis, au fond, se disent, bon, ça nous a coûté une fortune, ça n'intervient à rien, globalement. L'enjeu, c'est de nous préparer à l'affrontement avec la Chine, qui est beaucoup plus complexe. Certes, on a des éditoriaux qui sont assez négatifs dans la presse internationale, mais après tout, les élections du midterm, c'est dans un an. Si d'ici là, l'économie est repartie, tout le monde aura oublié cette histoire. Et les électeurs du Midwest seront très contents que leurs fils, qui n'ont plus d'emploi dans l'automobile parce que c'est délocalisé en Chine, ne se font plus massacrer dans des sociétés de sécurité privées qui aident l'armée américaine dans les scan, comme vous disiez tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier élément. Hein. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui transforme les priorités, et effectivement, comme ça vient d'être dit, je trouve très justement, le contre-terrorisme comme tel n'est plus une sorte de priorité sanctifiée. Et on l'inscrit dans davantage comme un moyen au service d'une fin, puisque finalement les opinions publiques des pays occidentaux qui votent et qui élisent leurs dirigeants, qui sont très angoissés par le terrorisme sur leur sol. Bon, à partir du moment où ce terrorisme n'est plus présent, ou à d'autres enjeux, et on peut bouleverser la hiérarchie des priorités. Maintenant, le problème que tout ça pose, la déstabilisation du Moyen-Orient et de l'Asie centrale ou occidentale ou méridionale, comme on veut l'appeler.
Avec un attentat djihadiste, semble-t-il, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, six blessés, enfin bon, un attentat isolé.
Je ne suis pas la même d'en faire la glose ex abrupto, mais non, le problème que ça pose, c'est pour nous comme Européens. C'est-à-dire, si les États-Unis considèrent qu'ils se retirent, parce que c'est ça la signification du geste, si par-delà les équilibres financiers, économiques, est-ce que ça vaut la peine d'être en Afghanistan, de dépenser tant d'argent, de perdre des hommes, alors qu'il faut qu'on se concentre sur les enjeux chinois. Du coup, c'est l'Europe qui doit faire face seule aux forces de transformation et de déstabilisation qui viennent des mutations accélérées de la région. La hantise de beaucoup aujourd'hui, c'est que les flux de réfugiés qui considèrent que l'Afghanistan n'est pas si cool que ça finalement, vont arriver en Europe, que ça va créer des tensions supplémentaires sur l'échiquier politique européen. On avait vu l'arrivée des Syriens en grande quantité après que Mme Merkel avait proclamé le Wirtschaftsverband, a eu pour conséquence la montée en flèche du parti d'extrême droite alternatif au Deutschland.
Oui, qui est retombé depuis, qui est à 10%.
Donc, ils sont pas si... là, pour l'élection prochaine en Allemagne, ils sont pas si mal que ça. Ils sont pas complètement hors-jeu. Et donc, tout ça, je crois que ça pose un problème plus global, qui est de savoir, est-ce que nous, comme Européens, nous devons considérer que notre politique de défense est exclusivement quelque chose qui s'inscrit dans le cadre de l'OTAN, que Emmanuel Macron avait qualifié dans un entretien fameux à The Economist de « brain dead », en arrêt cérébral. Ou bien alors, est-ce que nous devons avoir une politique européenne commune, puisque les États-Unis, au fond, vont se concentrer de plus en plus sur les enjeux pacifiques et vont estimer que les enjeux atlantiques, méditerranéens et ouest-asiatiques sont secondaires, pour reprendre la hiérarchisation qu'a initiée M. Tenenbaum. Je crois que ça, c'est une vraie question. Mais, oui,
et c'est une vraie question, Gilles Kepel. C'est l'occasion, et merci, je vous en remercie, d'annoncer précisément le thème de notre émission du 11 septembre prochain, qui justement portera sur les défis posés à l'Europe par le retrait américain et par le triomphe taliban en Afghanistan. D'un mot, Niagale Bagayoko, Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, disait hier au Figaro, le Sahel c'est notre frontière sud, et au fond, comme vient d'expliquer Gilles Kepel, chaque pays ou chaque acteur de la scène internationale voit les dangers selon la géographie, la loi de la géographie. D'un mot,
la difficulté, c'est que, à mon avis, toutes ces questions, elles vont au-delà de la seule question opérationnelle. C'est-à-dire qu'on a refusé de voir dans tous ces acteurs des acteurs politiques qui, en réalité, avaient de vrais projets sociaux, moraux, éducatifs pour leur propre société. Et on les a réduits à un mode opérationnel, et on ne combat pas un mode opérationnel, à savoir le terrorisme. On combat un ennemi auquel on doit aussi répondre de manière politique.
Et un ennemi qui s'appuie sur une religion et qui donc...
Sur une religion, mais aussi sur une vision politique. Et donc, c'est de cette façon-là, à mon avis, qu'il faut aussi répondre à ce type de crise en les abordant sous un angle beaucoup plus diplomatique et politique.
Eh bien, c'est le moment de terminer cette discussion que l'on a envie, bien évidemment, de poursuivre beaucoup plus longuement. Et nous la poursuivrons, bien sûr, sur France Culture. Merci à vous, Niagale Bakayoko. Je rappelle que vous présidez l'African Security Sector Network. Et donc, sur votre site, on peut trouver des analyses très intéressantes de ce qui se passe en particulier sur le continent africain. Merci, Gilles Kepel. Vous avez publié au début de cette année chez Gallimard, Le prophète et la pandémie du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère. Et c'est évidemment un livre qui reste infiniment d'actualité, comme le vôtre, Elie Tenenbaum. Vous avez publié avec Marc Ecker, La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle chez Robert Laffont. Je signale aussi le rapport Ramsès 2022 de l'IFRI qui vient de sortir, où vous signez une contribution précisément sur les problèmes qui nous ont occupés ce matin. Et je remercie très vivement Gilles Doronsoro qui lui a publié un livre au titre prémonitoire, Le gouvernement transnational de l'Afghanistan, une si prévisible défaite aux éditions Cartala. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique Jean-Guilain Meige, Hugo Boursier m'a aidé à préparer cette émission. Et vous allez découvrir sur notre antenne une nouvelle arrivée avec Nora Hammadi. Nora Hammadi qui va nous éclairer sur les préoccupations des citoyens, des préoccupations trop souvent ignorées ou marginalisées par le débat politique traditionnel. Bienvenue Nora, et vous avez l'antenne.